comprenez cette parole, ce qu'elle évoque pour vous. J'aimerais juste... Elle est tirée du chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Et j'aimerais lire, c'est au verset 24, mais j'aimerais lire les versets 23 et 24 au moment de commencer cette prédication. C'est Jésus qui parle et qui dit « En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Cette phrase que nous retenons pour notre thème pour ce mois, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom, cette phrase est un peu énigmatique. Que veut nous dire Jésus? Alors, demander, on comprend qu'il s'agit de prier, de prière. Mais si jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé, que faisions-nous jusqu'à présent quand nous prions? Après, je me souviens que c'est vrai, lorsque je prie, je n'obtiens pas tout ce que je demande. Que ce serait parce que je fais quelque chose de mal, puisque Jésus nous dit que nous obtiendrions tout ce que nous demandons. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie de faire, que nous oublions de faire. Peut-être nous ne prions pas son nom. Ce passage, pris comme ça, hors du contexte, et c'est volontaire de ma part, donne l'impression que ce que l'on demande, on l'obtient de façon assez automatique. Ça donne l'impression que tout ce qu'on veut est à portée de main, ou au moins à portée de prière. Peu qu'on le demande correctement. Mais cette impression est peut-être un peu exagérée. Et face à ce texte comme ça, isolé, il y a deux questions que nous devrions nous poser. À qui s'adresse ce texte? Et quel est le contexte, quel est le sujet du discours? Première question, à qui s'adresse le texte? Eh bien, le texte ne s'adresse pas à nous. Enfin, si, un peu, mais pas directement. Le texte s'adresse surtout aux disciples de Jésus. Aux 12. Enfin, pas aux 12, au 11, parce que Judas, celui qui le trahit, est parti, il a quitté le groupe, et il se retrouve là, 11 disciples plus Jésus. Et c'est cette question du contexte, à quel moment ça arrive, on est là à un moment crucial. Jésus va être arrêté, pour être ensuite condamné à mort au supplice de la croix. Et il faut se rendre compte que c'est la fin d'une époque. C'est la fin des 3 années que Jésus a passées avec ses disciples. Pendant 3 ans à peu près, ils ont passé leur temps sur les routes, aller de ville en ville, avoir une relation directe avec lui, marcher avec lui, discuter avec lui, à lui poser leurs questions quand elle venait, comme elle leur venait. Et là, Jésus sait que c'est une autre relation qui va se mettre en place. Même si il va ressusciter, il est encore vivant aujourd'hui. Une autre relation. Il ne marchera plus au milieu de ses disciples. Et il les prévient. Il les prévient de ce que les choses vont changer. Sont sur le point de changer. Et Jésus fait comme ça un long discours qu'on retrouve au chapitre 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Jean, avec cette fin de discours, la prière de Jésus, au chapitre 17, où il prie pour ses disciples, pour ceux qu'il s'apprête à laisser pour les 11, mais pas seulement pour eux, pour nous aussi. Jésus dit dans cette prière, ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi. C'est beau quand on y réfléchit. Il y a 2000 ans presque, vers l'an 30 à peu près, Jésus pensait à nous dans sa prière. Donc oui, on est un peu concerné par cette parole de Jésus. Mais regardons-la un peu plus précisément pour essayer de comprendre ce que Jésus veut dire, au-delà de juste cette phrase que nous avons choisie pour thème de notre mois consacré à la prière. J'ai commencé ma lecture au verset 22, où il est écrit: en ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Les disciples ne pourront plus rien lui demander parce qu'il ne sera plus avec eux. En ce jour-là, Jésus fait allusion au jour de sa résurrection, le jour où il sera glorifié, où il monte pour s'asseoir à la droite de Dieu dans le ciel. Avant, les disciples pouvaient demander directement ce qu'ils souhaitaient à leur ami. Après, il n'est plus là, ça change. Et ce n'est plus à Jésus qu'ils demanderont désormais, c'est au Père, directement. C'est ce que Jésus leur dit, il leur dit dans le passage qu'on a lu, il leur dit un peu plus loin, au verset 16, « En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que c'est moi qui demanderai au Père pour vous. En effet, le Père lui-même est votre ami, parce que vous avez été mes amis, et vous avez acquis la conviction que moi, sorti de Dieu. » Cette nouvelle période qui s'ouvre, cette nouvelle période où les disciples peuvent désormais s'adresser directement à Dieu le Père, ça paraît comme une perte, mais en fait c'est un privilège. En fait, ils passent au niveau supérieur, comme on pourrait dire si on joue à un jeu vidéo, ils passent au niveau supérieur. Ils n'ont plus besoin de passer par Jésus pour demander quelque chose au Père, pour prier le Père, mais ils peuvent s'adresser directement au Père. Et pourquoi ont-ils ce privilège? Jésus le dit, nous l'avons lu. Vous avez été mes amis. C'est la condition pour rentrer dans la promesse, être ses amis, les amis de Jésus. Et c'est ça qui nous permet de demander en son nom. Demander en son nom, demander au nom de Jésus, ce n'est pas conclure sa prière avec la formule liturgique « Au nom de Jésus, Amen ». Demander au nom de Jésus, c'est parler au nom de Jésus. Prendre la parole en son nom. Est-ce que vous vous rendez compte du privilège qui est donné? C'est un peu comme pour un ambassadeur. Imaginez l'ambassadeur du Royaume-Uni convoqué par notre président Emmanuel Macron qui va là. Et cet ambassadeur, quand il s'exprime, il parle au nom de son pays, au nom de la reine. Et si Emmanuel Macron lui pose une question à laquelle il n'a pas réfléchi avant, il ne prend pas son téléphone portable pour appeler la reine, non. Il a l'autorité pour répondre au nom de la reine, au nom de son pays. Et prier au nom de Jésus, c'est la même chose. Il nous est donné l'autorité, le privilège de demander au nom de Jésus. Privilège qui est donné à ses amis. Qu'est-ce que ça veut dire, être ami de Jésus? Un peu plus tôt, dans le discours, dans l'enseignement de Jésus à ses disciples, au chapitre 15, Jésus leur a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Être ami de Jésus, c'est garder ses commandements. C'est faire ce qu'il enseigne, faire ce qu'il dit. Et Jésus ajoute, voici mon commandement. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pour être exaucé, pour recevoir du Père ce que nous demandons, il faut demeurer en Jésus, avoir le même cœur que lui, les mêmes désirs que lui. Autrement dit, si nous prions ce que Jésus désire, alors nous serons exaucés. Prions ce que Jésus désire, alors nous serons exaucés. Peut-être êtes-vous déçu. Peut-être êtes-vous déçu de... Moi, je me disais, je vais pouvoir me tourner vers Dieu, demander ce que je souhaite et je l'aurai. Et en fait, ce n'est pas ce que je souhaite qu'il faut demander, c'est ce que Jésus souhaite. Mais dans le passage que nous avons lu, Jésus nous révèle la finalité de la prière, le but de la prière. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Le but de la prière, ce n'est pas d'être exaucé, de recevoir tout ce qu'on veut, d'avoir en Dieu quelqu'un qui nous donne ce qu'on désire. La finalité de la prière, c'est la joie. La joie complète. La joie qui dépasse la satisfaction temporaire de ce qui nous passe par la tête. La joie profonde d'être unis à Jésus, à Dieu, et de le voir à travers l'exaucement des prières, à voir qu'on est en phase, à voir qu'on travaille ensemble, à travers l'exaucement des prières, nous voyons réellement que nous sommes amis de Dieu, amis de Jésus, unis au Christ. Voilà donc ce que Jésus explique aux disciples au moment de les quitter. Il leur explique lorsqu'il leur dit qu'ils vont avoir l'impression de perdre quelque chose, perdre cet ami qui marchait avec eux, mais qu'en fait, ils gagnent quelque chose. Et nous, et pour nous, comment prendre cette parole? Comment prendre cet encouragement? Puisque je disais que Jésus ne s'adresse pas seulement aux 11 qui sont là, mais il pense à nous qui viendrons et nous qui croirons ce qui nous a été. Je pense que nous pouvons tirer de ce passage un encouragement à prier. Quand on lit les évangiles, on voit Jésus prier. On voit Jésus rechercher le calme, se mettre à l'écart, partir le matin avant tout le monde pour s'isoler. Prier, ça lui a demandé un effort. Il fallait se lever plus tôt après des journées chargées. Mais les disciples devaient être impressionnés du résultat que ça produisait sur Jésus, ce qu'ils l'ont écrit dans les évangiles. Ils partaient tout seul, il n'y avait pas de grand miracle spectaculaire, mais ça leur a semblé suffisamment important pour nous le transmettre et le transmettre plusieurs fois. Ils nous l'ont transmis dans les évangiles et ils lui ont demandé, ils lui ont posé la question, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Je pense que l'idée derrière, quand ils lui ont posé cette question, c'est « On voit que tu pries. Et on veut vivre la même chose que toi. La même sérénité, la même assurance. Apprends-nous, nous aussi. » Vous vous souvenez peut-être de la réponse de Jésus lorsque les disciples posent cette question qui nous a conduits l'année dernière. Jésus leur enseigne cette prière qu'on appelle le Notre Père. Une prière courte, une prière qu'on peut utiliser comme modèle, une prière quotidienne où on demande notre pain pour ce jour. Une prière qui nous est enseignée et qui est la volonté de Dieu pour nous. Comme pour tous les jours, nous reconnecter à ce que Jésus nous dit être nécessaire. Priez. Persévérer dans la prière. Une autre chose également que nous pouvons faire, c'est travailler notre proximité avec Jésus. Nous aussi, nous prions au nom de Jésus. Sommes-nous proches de lui? Vous sentez-vous proche de Jésus? Savons-nous ce qu'il veut? Philippe va parler du programme de ce mois, mais cette semaine, en groupe de maison, nous allons nous poser cette question. Où est Dieu? Savez-vous où est Dieu? Où est Jésus? Êtes-vous proche de lui? Nous savons que Jésus est la parole. Nous pouvons lire la Bible, le Nouveau Testament, les évangiles, et nous y trouvons un enseignement. Et Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Être proche de Jésus, connaître son enseignement, l'appliquer, suivre. Être proche de Jésus, mais également être proche les uns des autres. Jésus le demande, c'est une façon de suivre son commandement. Nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Donc si nous voulons suivre son commandement, nous devons être proches les uns des autres, mais être proches les uns des autres. Prier ensemble, c'est aussi une façon de mieux prier, d'augmenter l'efficacité de la prière. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui parle, « Amen, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » Oui, se mettre ensemble et s'accorder rend efficace. Pourquoi est-ce que ça rend efficace la prière? C'est parce que suivre le commandement de Dieu et rechercher cette unité, on est plus proche de lui. C'est aussi parce que quand on est ensemble, on est plus enclin à demander ce qu'il veut. Se mettre d'accord, c'est un très bon exercice. Parce que quand on est seul à prier, on peut être aveuglé par sa réflexion biaisée, par son propre intérêt, par ses désirs. Mais à plusieurs, on peut faire le tri. On peut confronter nos avis. Et on peut trier entre nos désirs et ceux de l'Esprit de Dieu qui nous est commun. Non, la prière n'est pas un exercice individuel, pas plus que la foi, une foi individuelle. Nous sommes sauvés pour être une communauté, une église, c'est-à-dire un rassemblement, tous ensemble. Et c'est ce rassemblement qui donne à voir Jésus-Christ. Jésus a voulu que nous soyons unis, il a voulu que la prière se vive ensemble pour discerner ce qui est important, pour que nous nous unissions à travers cela en partageant un même désir, en nous tournant vers Dieu ensemble et que nous tirions ensemble une même joie, une joie complète en voir l'exaucement. Ainsi, Jésus disait à ses disciples, « Jésus, vous n'avez jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Et après ce jour, ils ont pu le faire. Quand on lit le reste du Nouveau Testament, on devine que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé du temps dans la prière et on voit leur projet avancer et le royaume de Dieu avancer avec. Et nous voilà. Est-ce que nous vivons cette vie? Est-ce que nous sommes entrés dans cette vie de prière? Jésus nous dit que c'est un sujet de joie complète. Avez-vous essayé, avez-vous goûté à cette joie? Dans un instant, Philippe va nous parler de ce qui est mis en place dans ce mois, des différents événements qu'on veut vivre ensemble pour mieux prier. Je rappelle aussi que nous avons une réunion de prière avant le culte, tous les dimanches matins, l'occasion de nous unir devant le Seigneur. Entrons-nous dans cette vie de prière. Est-ce que nous en recherchons la richesse qui s'y trouve? L'unité avec Christ qui s'approfondit. L'unité entre nous qui se renforce. Et toute la joie complète qu'on peut tirer de cet exercice. Alors, je vous invite à mettre à profit ce mois où nous voulons nous perfectionner en communauté dans la prière. Avant de laisser la parole à Philippe, prions. Seigneur, quand nous sommes chrétiens depuis longtemps, nous perdons peut-être de vue ce privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à toi. J'aimerais vraiment te prier, Seigneur, que nous ne soyons pas blasés. Nous ne prenions pas pour acquis ce privilège immense que nous avons de pouvoir passer du temps avec toi. De pouvoir parler avec toi. Toi, notre Créateur, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui as tout mis en œuvre pour que nous soyons réconciliés avec toi. Aide-nous, Seigneur, à mieux prier. Oui, Seigneur, aide-nous à rechercher cette joie complète. Il y a à être proche de toi, à être tes amis. Nous te prions au nom de Jésus, qui nous donne cette possibilité. Amen.